franceinter.fr.
Bonjour à tous. Un quart des écoles françaises se trouvent en zone rurale et 4000 d'entre elles sont à classe unique. C'est-à-dire qu'un instituteur ou une institutrice y enseigne à des enfants d'âge et de niveaux différents. C'est le type de structure minuscule qui a été popularisée par le documentaire « Être et avoir ». C'est une réalité de notre pays que l'on a souvent tendance à oublier. Lorsque les médias traitent des problèmes scolaires, ils le font plus souvent dans des banlieues à problèmes que dans des campagnes isolées. Et pourtant, l'enjeu y est aussi important, voire plus. Car lorsque le nombre des élèves devient insuffisant, que l'administration songe à fermer ses écoles, c'est en fait souvent le dernier signe de vie, d'activité sociale qui disparaît du village. Et l'on se retrouve devant ce cercle vicieux. Moins il y a de population, plus on ferme les écoles. Plus on ferme les écoles, moins il y a de population. Le 6 juin dernier, plusieurs associations ont lancé à Limoges un appel pour le maintien des petites écoles en milieu rural. Elles font valoir que d'un point de vue économique, pédagogique, voire écologique, il vaut toujours mieux maintenir une école en activité, y compris lorsque les effectifs sont réduits, que de la fermer et obliger les enfants à des trajets quotidiens éprouvants et chers. Ce matin, nous suivons Yves Decamp et Yann Frécy dans deux départements particulièrement concernés par la question. La Dordogne et la Lozère. Titre de ce reportage, École à vendre.
Interception, le magazine de la rédaction.
Tu viens, Jules ?
Bonjour. Bon, ça fait tôt, hein.
Oh, mais c'est l'heure de toute façon, hein.
C'est l'heure. Ça fait tôt pour les petits.
Ah, ça, pour les petits, ouais, ça. C'est la course, là, par contre. Ça y va, là-dedans ? Arthur, tu te dépêches, mon grand ?
C'est la course comme ça, tous les matins ?
Oui, tous les matins, oui, ça a reparti depuis la rentrée, là. Ouais.
Qu'est-ce que ça a changé, alors, la fermeture de l'école ?
C'est surtout pour la petite, quoi. Les trajets sont, c'est plus du tout les mêmes. Elle va plus loin que le grand frère, finalement. Et elle a plus de trajets, elle, finalement.
Excusez-moi.
Alors, qu'est-ce que ça a compliqué pour vous, la fermeture de l'école ?
Elle fait quand même 20 km par jour de plus en bus. Et si, là, on s'arrange pour que, justement, elle n'ait pas trop de chemin à faire en bus. Mais si elle prenait le bus le matin chez nous, devant chez nous, c'est 7h30. Et elle ferait un circuit pour être à l'école à 8h30, donc elle ferait un circuit d'une heure. Et à 5 ans, c'est un peu compliqué. Donc,
Bonjour.
Tu mets tes chaussures, hein ? Et ton pull ? Il est quelle heure ? Ouais. Donc oui, ça, c'est un peu l'organisation entre parents, la course le matin, la course le soir. Moi, ça me rallonge mon trajet aussi.
Donc vous regrettez évidemment la petite école de l'Aiguillac.
Oui, grandement. Parce que là, on les posait les deux à l'école et on les récupérait au même endroit, quoi.
Allez, Arthur, on y va ?
T'es où, là ?
Déjà parti.
Non ?
On t'attend, Arthur.
On t'attend. Tu mets ton pull, là ?
Allez.
Le bus avec des collégiens. Parce que c'est le dernier bus qui amène tous les collégiens. Et du coup, oui, les premiers jours, c'était un peu impressionnant pour elle, quoi. C'est un peu dur aussi pour sa mère.
L'Aiguillac de Cercle en Dordogne, une commune de 310 habitants, un habitat très dispersé, une petite école collée à la mairie et désormais vide. La classe unique, une maternelle où étaient inscrits 15 enfants, a fermé. obligeant les parents à s'organiser autrement.
Donc le matin, vous prenez la voiture et vous...
Alors on prend tous les deux la voiture. Moi je prends la voiture pour embaucher et j'emmène le grand. Et le papa prend la voiture pour emmener le plus jeune à la Tour Blanche.
Combien de kilomètres ?
Il y a 7 kilomètres.
7 kilomètres que vous n'auriez pas eu à faire si l'école était, avait
si
été
l'école
maintenue.
Était restée ouverte, voilà. Bon, moi ce qui me chagrine c'est que c'était une école qui marchait très très bien. L'institut était formidable. Il nous fallait 54 élèves, on était à 52. Donc on avait, il y a 3 classes en tout. Il y avait une classe de maternelle et il y avait 2 classes aux primaires. Et là, donc la classe de maternelle a été supprimée. Et donc on a nos enfants qui vont encore sur le RPI, mais vu qu'il n'y a plus l'école de Légubiac, on va se retrouver à perdre cette école de Vieux-Mareuil. Je pense que voilà, les communes n'ont pas assez pris la menace en compte. Ils ont reçu des courriers en juin 2014, en novembre 2014. Et voilà, nous, le coup près est tombé au mois de février-mars. Personne ne s'attendait à ça. Alors tout le monde nous dit, on vous avait prévenu. Bon, alors nous, au niveau des parents, pas du tout. Hein. Nous, on a connu tous ces courriers après.
Mais pour vous, à terme, c'est la mort de la commune. C'est ben, une mort lente ou... Vous, par exemple, vous seriez là de toute façon.
C'est sûr que ça accélère la désertification rurale. Qu'est-ce que vous voulez ? La deuxième question qui revient, par exemple, à la secrétaire de mairie, quand les gens appellent pour savoir s'il y a des locations dans la commune, c'est est-ce qu'il y a une école ? Ils font tout pour accélérer la désertification, quoi, c'est ça. Hein. Nous, les syndicats nous avaient dit garder espoir jusqu'à la rentrée. Et là, non, l'inspectrice académie nous a dit oubliez ça, l'école est fermée. C'est dommage pour notre territoire, quoi.
Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes monsieur Ravon ?
En principe, oui.
Jean-Robert Ravon, monsieur le maire de Légubiac.
Oui. Bonjour.
Ce qu'on pourrait faire, c'est peut-être aller dans la classe ?
Oui, ben, si vous voulez.
Avec vous ?
Voilà. Je vais déjà. J'ai le trousseau.
Eh ben, allez. Et donc voilà cette petite école donc, qui ferme.
Cette école, elle est fermée. Il y avait tout pour travailler facilement. Les locaux étaient quand même passablement en état.
Hein ? Eh oui, c'est quasiment tout neuf.
C'est quasiment tout neuf et... nous avons du matériel qui a été rénové. La mise aux normes de la cantine a été refaite l'année dernière.
Il n'y a aucune chance que la maternelle rouvre ses portes un jour.
C'est-à-dire qu'il y a eu peut-être un malentendu ou peut-être également... volonté de fermer les petites classes. Parce que si, par exemple, les grosses collectivités avaient accepté de diminuer d'un poste, notre classe aurait peut-être pu être conservée. Et puis, bon, les gens qui font partie du regroupement pédagogique, certains n'ont pas joué le jeu. Ils envoyaient déjà leurs enfants... pour diverses raisons, pour des raisons de commodité et tout, pour, comment on appelle ?
Là, vous parlez des parents ?
Des parents qui amenaient leurs enfants à Mareuil ou, voilà.
Donc, vous êtes en train de nous dire, si les communes, par exemple, s'étaient entendues entre elles, voilà, vous auriez pu conserver votre classe ?
On aurait pu sûrement conserver notre classe, hein.
Et ça va vous coûter combien ?
Oh ! Le prix, on ne peut pas bien le déterminer, parce que, bon, nous avons une cantinière qui était à mi-temps. La cantinière, c'est à peu près 25-30 000 euros. Et ensuite, nous avons quand même l'aide maternelle, qui, elle, est rémunérée par le syndicat des transports. Mais elle était à plein temps. Ça va être une histoire de 45-50 000 euros par an. Et après, il y a tous les frais de gestion qui sont quand même là.
Alors, qu'est-ce que vous allez faire de tout ce matériel ? Parce que là, dans votre classe, il y a encore toutes les tables, tous les bancs, toutes les peintures, les peintures, les livres.
Tout le matériel, comment on appelle ? À l'heure actuelle, on aurait beaucoup d'amis, de collègues élus qui seraient intéressés pour venir récupérer le matériel.
Hein ? Vous allez le vendre ?
Le vendre, je ne sais pas, je ferai peut-être plutôt un don à une association qui l'amènera soit au Sénégal ou quelque chose comme ça. Parce que bon, les collègues, il est vrai qu'ils ne m'ont pas rendu grand service lorsque il y a eu le maintien de l'école. Hein.
Donc vous ne leur donnerez pas le matériel.
Je ne leur donnerai pas le matériel. Hein.
Alors à titre personnel, qu'est-ce que ça vous fait de voir cette salle de classe abandonnée?
Moi, depuis 20 ans que je suis élu maintenant, ça me fait un peu mal au cœur parce que moi, tous les matins, je passais voir les gamins. Hein. C'était les gamins, je les connais tous. C'était bonjour Jean-Robert, bonjour Monsieur le maire, bonjour Monsieur Ravon, bonjour ci, bonjour là. C'était des choses qui étaient. Hein. Moi, j'allais souvent les voir à la cantine. C'était magnifique. C'était.
Et puis les perspectives étaient bonnes en matière de naissance, je crois.
Ah, qu'il oui, y a oui, des non, enfants, mais bon, si on avait pu passer cette année, l'année prochaine, on aurait eu 9 enfants qui rentraient. Voilà, on repassait dans les quotas supérieurs, mais bon.
Que va devenir la commune sans son école?
Que voulez-vous, c'est une commune morte. C'est vraiment la fin d'une commune, parce que avant, nous avions 10, 15 personnes tous les matins qui se réunissaient là, qui amenaient les gamins, qui depuis la rentrée scolaire, on ne voit plus personne. C'est mort, mort, mort. Voilà. Vous savez, il y en a eu tellement de banderoles. Ah oui, touche pas à mon école.
Une maternelle a fermé, elle faisait partie d'un regroupement pédagogique intercommunal et c'est l'école primaire de la commune voisine, Vieux-Mareuil, qui était alimentée en quelque sorte par cette maternelle qui pourrait être menacée à son tour. Au grand dam des parents et des élus locaux du secteur qui craignent pour leur mode de vie.
D'accord, ah mais oui, la fille, d'accord.
L'école de l'Aiguillac, c'était le noyau... De tout, hein. C'est où les gens se regroupaient, c'est toutes les activités dans les Guyacs se retrouvaient autour de l'école. C'est la fin et la mort d'un village, malheureusement.
Ces écoles sont quand même assez attractives, de par le suivi un peu personnalisé quand même qu'il y a sur les enfants. Ils sont peu nombreux, les enfants s'entraident entre eux. Je vois ma fille, elle me disait hier, on ramasse des noisettes, la cantinière, elle va nous faire, Edwige, elle va nous faire un gâteau avec les noisettes. On trouve pas ça dans les plus grosses structures. On a envie de conserver ça, ça fait partie de l'identité des villages, de ce pourquoi on vit là.
La solution maintenant, c'est d'attirer les familles. Comment vous faites à Vieux-Mareuil?
C'est la grande question. On est dans des zones où... Le travail, il n'y en a pas beaucoup, les gens qui viennent s'installer, des nouveaux arrivants, il y en a, mais c'est des indépendants, des choses comme ça. C'est très dur d'avoir une attractivité, mis à part, oui, des urbains qui veulent s'installer à la campagne.
Je ne vous sens pas très optimiste.
Ah, c'est le matin, là. Si, optimiste, après le sujet est sérieux et on verra bien, mais il va falloir se battre, oui, il va falloir se battre. Oui.
On dit il y a personne dans les campagnes. Si, il y a du monde. Il y a du monde. Tout le monde se retire. Enfin, je veux dire le service public, la poste, la gendarmerie, etc. Mais il y a des gens. Il y a des gens.
Catherine Brousse-Robert, porte-parole des parents d'élèves de l'Aiguillac.
Il y a un siècle, à l'Aiguillac, il y avait 1000 habitants. Quand on est arrivé il y a une dizaine d'années, il y en avait 200-220. Là, on est à 300 et on perd pas d'habitants. Il y a des néo-ruraux comme moi qui se sont installés pour avoir une qualité de vie. Dans notre choix de village, l'école était importante, c'était un critère, le fait qu'il y ait une école. Donc oui, c'est vraiment une perte. Et puis le côté impuissant et surtout, en fait, les élus ne nous ont pas défendus. Il y a une volonté de reconcentrer. On le voit d'ailleurs au niveau global, politique. Les maires sont sommés de faire des grandes communes de 1000 habitants, de se regrouper, alors qu'en fait, ce qui augmente les distances, si on vit dans les villages et si on vit dans la campagne, c'est qu'on est attaché à un village et un lieu, et qu'il faut faire vivre ce lieu. L'argument, il est comptable et il est soi-disant économique. C'est pour faire des économies. Alors, l'État va faire des économies. Ils vont gagner 24 ou 25 000 euros pour l'année parce qu'il y a un poste d'instit en moins. Mais économiquement, je veux dire, ça va coûter beaucoup plus cher aux collectivités territoriales. Et donc, il y a un leurre de ce côté-là. C'est-à-dire que l'État fait des économies, mais la surcharge et des frais incombent aux collectivités territoriales. Et les collectivités territoriales fonctionnent aussi avec nos impôts. Donc, finalement, de toute façon, il n'y a pas d'économie. Et il va y avoir vraiment un vide, c'est-à-dire une espèce de zone blanche où finalement entre les deux villes qui sont Mareuil et Brantôme, il y a 20 ou 25 minutes de route. Enfin, ça va augmenter les distances. Alors on vit à la campagne pour avoir une qualité sur plein de points. Le point négatif, j'allais dire, c'est qu'on accepte les contraintes de distance. On est obligé de se déplacer pour faire les activités sportives, pour le travail, etc. Et l'école, nos enfants avaient été quand même préservés jusque-là. Et là, pour certains, ils vont faire 45 minutes de bus, le matin et le soir. On trouve ça pas juste au sens où on avait les moyens de garder l'école. Plutôt que d'appliquer les seuils à tout le monde, sur tout le territoire, urbain ou rural, on espérait, et c'est pour ça qu'on s'est battu longtemps, on espérait que les élus prennent conscience de qu'est-ce que c'est que l'éducation au milieu rural. Retirer les écoles, faire des zones blanches, et ben voilà, ça appauvrit.
Les CP, je suis passée voir, donc vous pouvez ranger les cahiers jaunes.
Elle a toujours pas signé.
Très bien. On va attendre demain matin. Là, c'est bon ?
Là, c'est bon ? Oui, c'est normal.
Une classe qui ferme, soit, mais une école qui disparaît jamais ne rouvrira. Ce dont personne ne se réjouit, évidemment, sauf qu'il en va des enseignants comme des médecins. Jérôme Bousquet, le secrétaire départemental du SEUNSA de Dordogne, l'assure. Peu nombreux sont ceux qui demandent ou qui acceptent les classes uniques. Ce qui rend les syndicats sur le sujet plutôt accommodants.
Les CEA, vous pouvez nous rejoindre.
Nous, effectivement, on regrette toujours que des écoles ferment et que des classes ferment en Dordogne. On aimerait que les conditions soient idéales un petit peu partout. Et en même temps, du côté des enseignants, on est conscient que d'être tout seul dans une école, isolé à la campagne, c'est pas les conditions les plus réjouissantes pour un enseignant et pour les élèves non plus, puisque l'émulation est quand même moindre quand on a une école à une seule classe. Et voilà, 20% des écoles ont une seule classe en Dordogne, donc c'est un problème récurrent. Ces postes sont toujours les postes qui restent vacants à l'issue des mouvements, donc c'est-à-dire qu'on les attribue à des gens qui ne le demandent pas. Et bien souvent, attribuer un poste à quelqu'un qui ne le souhaite pas, c'est un personnel qui va être en souffrance derrière. Donc les enseignants, professeurs des écoles sont recrutés à Bac plus 5. Il y a donc des universitaires qui arrivent en Dordogne, qui viennent d'autres départements et qui déjà font beaucoup d'efforts pour pouvoir s'éloigner de leur famille ou de leurs amis, arrivent en Dordogne dans un territoire inconnu. Et bien souvent, c'est vrai que au fin fond de la campagne du Périgord vert ou du Périgord blanc, c'est vrai que ce sont des conditions d'enseignement un petit peu particulières. On n'est plus sur l'instituteur qui faisait toute sa carrière dans le même endroit. C'est vrai que le métier a beaucoup évolué et c'est pas forcément évident pour tout le monde. Je ne dis pas que tous les enseignants qui sont dans les classes uniques sont en souffrance, mais il y a une bonne partie de ceux-là qui ne souhaitent pas y rester en tout cas et qui souhaitent se rapprocher des centres urbains.
Bonjour, je suis Madame Bertrand, j'ai pas la clé, il va falloir que vous fassiez le tour par l'autre côté.
Vous êtes l'ancienne institutrice de l'Aiguillac.
Tout à fait.
On va se mettre un peu à l'écart, mais pas complètement. Vous avez passé 10 ans, 11 ans à l'Aiguillac.
11 ans à l'Aiguillac, avec 4 niveaux, tout petit, petit, moyen, grand, avec à peu près en moyenne 20-22 élèves par an. J'ai toujours eu un double niveau, soit petit moyen, soit moyen grand. Et ça ne me posait aucun souci de préparer ma classe pour 3 ou 4 niveaux. En fait, je ne me suis jamais posé la question. Je ne me suis jamais dit, oh, ça va être insurmontable, je vais avoir une tonne de travail à faire. Sachant qu'en maternelle, on travaille beaucoup par atelier. C'est-à-dire qu'on a des moments où on est regroupés tous ensemble, donc que ce soit en sciences ou en sport. Et ensuite, on fait des activités de petits groupes. Donc là, plus spécifiquement pour les petits, pour les moyens, pour les grands. Ce qui est bien dans les classes uniques aussi, c'est que si un élève a des difficultés, on peut aussi temporairement le basculer dans un groupe, le groupe du dessous, ou dans un groupe plus fort.
Et du point de vue du professeur, est-ce que c'est pas plus difficile d'être seul ? Est-ce qu'il n'y a pas un sentiment d'isolement ? Il n'y a pas cette équipe pédagogique autour de vous ?
Alors là aussi, je n'ai pas eu ce problème, puisque j'étais très entourée par mes collègues du RPI de Vieux-Mareuil et aussi par mes collègues de Mareuil. Donc on se réunissait régulièrement, soit à Mareuil, soit à Vieux-Mareuil. On avait des projets ensemble, des projets sportifs, des projets de rallye lecture, des projets carnaval. Donc on se voyait plusieurs fois dans l'année et on faisait aussi des conseils de cycle et des conseils des maîtres ensemble.
Vous n'allez pas à la cantine ?
Non, on a que les petits sauces. Et après, c'est nous.
Je m'appelle Jacqueline Orlé, je suis inspectrice d'académie en dehors de...
On passe à la radio !
Est-ce que vous avez des consignes du ministère visant à économiser au maximum les postes ?
Vous n'avez pas de consignes du ministère. Vous avez une politique nationale de mettre en place tous les éléments qui vont faire en sorte que l'école soit la plus juste possible, la plus équitable, la plus exigeante. Donc la mise en place des programmes en maternelle, la réussite des élèves, pour le département de la Dordogne, faire en sorte que les élèves aillent le plus loin de leur potentiel et qu'on rattrape le niveau académique. Vous avez un cadre des finalités éducatives, vous n'avez pas des modalités pratiques.
Vous vous situez d'un point de vue pédagogique uniquement, il n'y a pas de considération économique ou budgétaire.
Question difficile. Nous rendons cette poste parce qu'il y a une déprise démographique. Nous aurions pu, au titre de la démographie, rendre 20 postes. Les spécificités de la Dordogne, le maillage territorial, que le territoire est étendu, le nombre de petites classes, a fait que nous avons rendu moins de postes. L'année dernière, nous n'avons pas rendu de postes alors qu'il y avait moins d'élèves. Même chose à la rentrée 2013. Après, vous faites avec une délégation budgétaire. Mais ce n'est pas uniquement cette entrée-là. Quand vous fermez une classe ou vous ouvrez, vous prenez en compte les flux sur une dizaine d'années. Vous regardez les chiffres de l'INSEE. On sait que le département, d'ici 2016-2017, va encore avoir moins d'élèves. Ils sont déjà nés, les petits qui vont rentrer dans les toutes petites sections. Donc vous êtes à la fois dans un schéma où vous gérez le quotidien, mais où vous vous mettez aussi en situation de perspective.
La parole est à Madame Dominique Orliac.
Madame la ministre de l'Éducation nationale, nombre d'écoles rurales sont vouées à disparaître dans le cadre d'une réforme des regroupements pédagogiques intercommunaux. Je souhaite rappeler que le soutien à l'école de la République doit se traduire de manière égalitaire, y compris dans les territoires ruraux. Nombre de maires de communes rurales, notamment dans le Lot où je suis élue, se montrent en effet extrêmement inquiets quant à l'avenir de leurs écoles. Des solutions autres que de simples regroupements ou suppression d'écoles existe, notamment l'expérience dans le Cantal avec la Convention pour un aménagement du territoire scolaire. Aussi, pouvez-vous nous assurer que les départements ruraux ne seront pas les victimes collatérales des réformes en cours ? Et enfin, envisagez-vous d'étendre à l'ensemble du territoire national le dispositif que je viens d'évoquer ?
Merci. La parole est à Madame Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l'Éducation nationale.
Oui, merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Orliac. J'accorderai toute leur place aux écoles rurales. Je sais l'isolement, je sais la difficile continuité entre le primaire et le collège, je sais le décrochage scolaire et je sais aussi le retard en équipement numérique, par exemple. À chacun de ces défis, le gouvernement sera là pour accompagner les collectivités locales et pour trouver des réponses. Vous avez évoqué la contractualisation dite Cantal, du nom du premier département qui a accepté de nous accompagner dans une nouvelle démarche pour que on puisse anticiper et préparer l'avenir dans ces territoires où, vu la baisse des effectifs scolaires, on craint une fermeture trop brutale des écoles. Dans cette contractualisation, il est prévu de la part des élus locaux une restructuration du réseau des écoles avec la création de regroupements pédagogiques, avec la diminution du nombre d'écoles de moins de 3 classes, avec aussi la mise en place de réseaux primaire-collège. En échange, et pendant 3 ans, le ministère de l'Éducation nationale s'engage à les accompagner, ces élus locaux, y compris en neutralisant les effets que la démographie devrait normalement avoir sur l'octroi de postes.
Hier. Alors Melvin,
on est en automne.
On est en automne. On a changé de quoi?
De mois.
Ah non.
De saison.
On a changé de saison.
Ailleurs.
On est passé de
l'été.
Elle n'a pas fait exprès. À
automne.
L'automne. Très bien.
Il n'y a pas les feuilles qui tombent.
Regarde dehors. Il n'y a pas les feuilles qui tombent. Elles commencent quand même. Elles sont pas toutes par terre.
Geler les suppressions de postes, comme le proposait la ministre en novembre 2014 à l'Assemblée nationale, c'est ce que font certains départements, sous réserve que les prévisions démographiques l'autorisent. Dans un contexte parfois très particulier, comme ici en Lozère, au cœur des Cévennes, à Saint-Martin-de-Boubeau, une classe unique avec 7 enfants.
Bonjour. Nous offrons le café ?
Non, je vous offre le thé, si vous voulez.
Bonjour, vous êtes l'instituteur ? Alors, comment ça se passe avec 7 enfants ? C'est bien ?
Ça se passe bien. Il n'y a pas de soucis.
C'est pas plus compliqué avec plusieurs niveaux ?
C'est comme au niveau, ambiance dans la classe, c'est plus calme, c'est plus agréable. Mais après, il faut quand même préparer un cours pour chacun. Quoi. Même s'ils sont tout seuls dans leur niveau. Le danger, si on peut appeler ça un danger, c'est de rester isolé. Donc après, il faut effectivement participer à des rencontres d'anglais, des rencontres départementales d'anglais, des rencontres sportives. Il y a même un festival de théâtre qui est organisé chaque année par la Fédération des Ovalaïques.
Vous travaillez en réseau avec les collègues des communes à côté ?
Voilà, oui. Alors, moi, j'étais... Il y a 3 ans, j'ai fait presque toute l'année ici, puisque j'ai remplacé presque à partir de Toussaint jusqu'à fin mai. Donc effectivement, je travaillais avec une autre école qui est dans la Vallée Longue, qui s'appelle Saint-Michel-de-Lez, et on avait fait un voyage scolaire en commun.
Donc pour vous, maintenons au maximum nos petites écoles, y compris les écoles à classe unique dans nos villages.
Ben oui, surtout ici, vous êtes venu en voiture. Vous avez vu le temps qu'il faut pour se déplacer. Il ne faut pas compter un kilomètre, là, il faut compter la durée. Voilà. Les élèves qui vont au collège du collège de Dez, pour aller au collège de Dez, il faut 30-35 minutes. Donc ils partent à 7h30 du matin et ils reviennent à 18h. Donc ça fait des journées de plus de 10 heures. Pour les grands, c'est dur. Alors pour des petits comme ça, là, vous l'avez vu celui-là? Il a 3 ans, celui-là. C'est pas le plus petit, il y a plus petit que lui encore. Là, c'est la plus petite, elle est là-bas.
Enfin là, c'est quand même du luxe, hein. Vous êtes deux avec notre SEM, 2 pour 7.
Oui, mais oui, c'est du luxe. Il n'y a pas de souci. Quand j'en parle à mes collègues du Gard, ils font des yeux tout ronds.
2 × 2 = 13, 12 × 3 = 2. 2 × 1
2
et 1 3.
Ok,
ça roule. Allez.
Ça roule pas, non, c'est impossible, c'est faux.
Ouais,
c'est faux.
Pourquoi ?
Parce qu'il y a 2 chiffres de décalage.
Non, non.
Monsieur Alain Louche, donc vous êtes le maire de Saint-Martin-de-Boubeau, en Lozère. Votre école accueille actuellement 7 élèves. C'est assez exceptionnel d'avoir si peu d'enfants. Ouais.
C'est effectivement un peu exceptionnel, mais c'est provisoire, c'est temporaire, parce que nous avons 2 ou 3 logements disponibles sur le village, logements sociaux, j'entends, et je souhaite faire venir des familles de demandeurs d'asile actuellement. Donc l'effectif va atteindre au moins 10 élèves d'ici un mois ou deux. Nous avons accueilli une famille de Roumains, il y a à peu près 6 mois, qui s'est très bien intégré, qui fonctionne très bien, qui fait partie du village. Nous sommes sa famille, maintenant.
Et c'est ce qui vous permet d'avoir 7 enfants dans la classe.
Nous permet d'avoir 7 enfants dans la classe, voilà. Le papa de la famille roumaine que nous avons accueilli travaille dans une scierie, à 20 km d'ici. Et on n'avait pas trouvé d'autres personnes pour tenir cet emploi-là, par exemple. Alors j'ai deux entreprises qui ont, sur les communes voisines, qui m'ont dit « Trouve-nous une famille, nous on recrute un maçon, un chauffeur, etc. »
Donc pour sauver votre école, finalement vous êtes prêt à vous battre sur tous les plans?
Absolument. Mais en même temps, je suis tout à fait conscient qu'on ne peut pas garder une école s'il n'y a pas d'élèves en face. Donc le deal passé avec la hiérarchie de l'éducation nationale et vous me maintenez l'école, moi je vous amène des élèves, voilà.
D'autant que les accueillir au milieu des Cévennes, c'est pas leur faciliter la tâche. Est-ce qu'il n'y a pas un risque d'isolement, de marginalisation supplémentaire?
Le risque est là. Clairement, le risque est là. Il faut, si j'ose utiliser le terme, sélectionner un petit peu les familles. Moi, j'ai l'exemple de la famille qui est ici. Elle a été présélectionnée par une association, un collectif rom de Marseille, de Gardanne plus précisément. Le papa avait un profil rural puisqu'il avait été bûcheron dans le passé en Espagne, je crois. Ils sont venus voir sur site plusieurs familles. Une a dit oui, je viens. Les autres ont dit nous, on ne vient pas. On était prêts à en prendre deux. Il faut que ce soit sur la base du volontariat également. Et qu'ils aient une sensibilité rurale quand même.
Alors est-ce que ce n'est pas finalement reculer l'échéance à terme, de toute façon, même si vous sauvez l'école, un an, deux ans, trois ans, est-ce que ça pourra durer éternellement?
Je ne suis pas forcément comptable de l'avenir, mais je vais vous raconter un petit truc. Il y a à peu près 55 ans, l'école était menacée de fermeture. 55 ans. Le maire de l'époque a fait venir une famille. C'était une famille de gitans qui se sont installés là. Il y a eu des enfants. L'école a tourné pendant un certain temps et elle est encore ouverte. Si elle avait été fermée il y a une cinquantaine d'années, on n'aurait plus jamais eu d'école sur le village. Notre commune à nous, qui est géographiquement isolée, un peu éloignée des communes voisines, ne peut pas se dispenser d'avoir une école sur place.
Bonjour.
Bonjour.
Bonjour,
Jeanne. Bonjour, mon grand. Ça va?
Ce soir.
L'école, c'est un emploi d'enseignant pour l'État. C'est-à-dire, grosso modo, 30 000 euros. Si on supprime cet emploi, il faut amener les élèves ailleurs. Le coût du transport scolaire pour amener les élèves de chez nous à la commune voisine, c'est 40 000 euros. Le bénéfice pour la collectivité est nul. Le bénéfice économique est nul et en plus, on met les enfants en danger sur les routes, etc. Ça a un coût, l'école, pour nous. C'est un vrai coût. Mais on est prêt à l'assumer pour garder cette école-là et pour avoir... Si on ferme l'école, j'ai deux ou trois familles qui partent. Et ce sont des actifs, des jeunes. C'est un peu l'avenir de la commune. C'est pas les personnes âgées qui partiraient.
Ils vous ont dit ça. Si l'école ferme, on part.
Ils ne me l'ont pas dit comme ça, mais je le sais.
Et comment ça se passe alors avec nos jeunes petits Roumains? Comment s'intègrent-ils?
Ah, très bien, ça a été, ils se sont... D'ailleurs, c'est moi qui les ai accueillis l'année dernière, et ça s'est très bien passé tout de suite. Au début, c'est des enfants qui avaient besoin d'espace, donc là, ça leur paraissait un peu étroit. Mais là, maintenant, ils se sont posés, surtout le grand, là, et je l'ai trouvé vraiment transformé. Il est beaucoup, beaucoup plus calme, beaucoup plus... il a fait d'énormes progrès. Il parlait déjà français... mais il ne savait pas lire, il ne savait pas écrire, il ne savait pas compter. Et là, il commence à savoir bien lire.
Ils arriveront en collège au même niveau que les petits camarades?
Ah non, parce que lui, il est... Pas lui. Parce que lui, il est d'âge d'aller au collège. Donc, comment dire, son âge ne va pas l'aider. Mais sinon, son petit frère, sa petite sœur, il n'y a pas de raison.
Et s'il en arrive deux, trois autres petits étrangers, ça ne vous posera pas de problème?
Ben non, ça ne pose pas de problème. Hein. Au collège, on a des Tchétchènes, ici, il y a des Roms. Il suffit qu'on ait des outils adaptés, et ça va. Hein.
Il est pénible, il la boit, le chien.
Anne Romieux, vous êtes l'ex-institutrice de Saint-Martin-de-Boubeau, en Lozère, que vous avez quitté bon, pour des raisons familiales, vous habitiez beaucoup trop loin. Est-ce que vous l'avez quitté à contre-cœur d'un point de vue professionnel?
Alors c'est sûr que ben, l'affectation là-bas était difficile au départ parce que école éloignée, classe unique, isolement. Mais après y avoir passé un an, oui, effectivement, y a quand même des choses positives, voire plus que positives à retenir de là-bas.
Lesquelles ?
Enfin, une mairie qui essaie de garder une école malgré justement un effectif faible. Ben, y avait énormément de maternelle l'année dernière quand j'y étais. Donc c'est des élèves qui n'auraient pas fait, je pense, trois quarts d'heure de trajet en bus pour être scolarisés dans des écoles alentour. Puis voilà, une petite structure, possibilité de faire de l'interniveau, des projets de classe.
Alors si vous n'aviez pas eu nécessité de partir pour raisons personnelles, est-ce que vous seriez resté ?
Peut-être, peut-être.
Il faut savoir qu'Anne a été nommée d'office dans cette classe en fin d'année scolaire et c'était sa première année.
Nathalie Perret, secrétaire départementale du SNU-IPP FSU en Lozère.
Donc c'est très compliqué pour des jeunes enseignants qui n'ont pas encore mis en place et expérimenté des pédagogies de pouvoir faire la part des choses et de voir ce que peut apporter ou comment s'organiser. Ils ont à mettre en place un savoir-faire tout à fait nouveau, sans aide particulière. Alors, moi j'ai enseigné pour ma part aussi en classe unique dans un autre département, j'y suis restée 5 ans. C'est vraiment, il faut du temps d'abord pour se rendre compte de ce que ça peut apporter. Sur une année, c'est compliqué, on voit que le côté compliqué des choses, un peu lourd, un peu fastidieux, ça fait énormément de préparation pour un seul élève parfois dans un niveau. Et il faut arriver à contrebalancer cet effet effectivement d'isolement et trouver une émulation pour les élèves.
Nathalie Perret, ce mouvement qui tente à se dessiner et qui pousse à organiser des regroupements pédagogiques concentrés, vous y êtes plutôt favorable ?
Oui et non. Oui, quand c'est dans l'intérêt des élèves et que ça permet de maintenir le tissu scolaire. Non, quand c'est dans un esprit comptable, et c'est malheureusement souvent ce qui anime les décideurs et l'administration, c'est-à-dire que nous, on s'est rendu compte qu'à très court terme, c'est des suppressions de postes qui sont à la clé des regroupements pédagogiques. Donc, il y a quand même de nombreux paramètres, et je ne suis pas convaincue que ce qui est pensé en haut lieu, ça soit dans l'intérêt véritablement du territoire et des élèves, mais plutôt pour toujours penser à l'effet poste, pour pouvoir avoir des postes soit de réserve, soit redistribuer des postes pour d'autres optiques pédagogiques, le plus de mètres que de classe, enfin des choses comme ça. C'est-à-dire pouvoir faire plus, mais à moyen constant.
Jean-Pierre Genevière, directeur académique de la Lozère.
Monsieur Genevière, cette école de Saint-Martin-de-Boubeau, donc vous l'avez maintenue malgré le très faible effectif. 7 élèves, c'est assez rare.
Alors, Saint-Martin-de-Boubeau, c'est une situation assez particulière. On est en Lozère, donc on est sur un territoire qui est caractérisé par sa ruralité, je dirais même par sa grande ruralité, en tout cas dans le secteur des Cévennes. De surcroît, les Cévennes donc, sont en zone montagne. Nous avons eu des hypothèses de fermeture de la classe unique, mais lorsque l'on fait ces hypothèses, on fait tout un travail de prévision d'effectifs, et à partir de là, nous entamons une phase de dialogue avec le maire. Alors, s'agissant de Saint-Martin-de-Boubou, on n'est pas sur une logique de seuil que je qualifierais d'appliquer de manière brutale, on est plutôt sur une analyse donc prospective. Ce qui s'est passé antérieurement, ce que nous pouvons imaginer comme hypothèse à venir, et puis également, on a cette réflexion sur les incidences que pourrait avoir une décision de fermeture sur les élèves, devenir des élèves. La distance entre l'école de Saint-Martin-de-Boubeau et l'école la plus proche est assez conséquente. Vous avez dû vous rendre compte que 17 kilomètres, ça représente un certain temps de déplacement. Donc c'est à ce titre-là qu'on a un objectif avec le maire qui nous permet de pouvoir dire au maire, eh bien, dans ces circonstances, nous maintenons l'école tant que nos moyens nous le permettent. Donc la volonté, en tout cas, lorsque je dialogue avec les maires, bien évidemment, c'est le modèle pédagogique que je leur propose, tout en me rappelant également leur fort attachement à ce service public de proximité qui, parfois, dans des communes, reste le dernier service public présent dans la commune.
Une spécificité qu'il faut avoir donc à l'esprit en Lozère, quand on parle du réseau des écoles, c'est que 60% des écoles de Lozère disposent de 3 classes et moins. Donc on est quand même sur un réseau très spécifique.
Garder ouvertes nos petites écoles, c'est donc possible, mais à quel prix et combien de temps? Et à l'inverse, que nous coûtera sur le long terme leur disparition? Aux politiques de répondre, bien entendu, mais ce qu'on veut faire de nos campagnes, c'est aussi l'affaire de tous, des élus locaux et des parents, comme le pense Jörg Jacobs, le président des parents d'élèves du secteur.
Les écoles rurales ont un rôle très important, évidemment, sur notre territoire. C'est un élément de vie pour tout le monde qui s'y installe, et donc une garantie de maintien de la vie dans nos petites communes. Donc c'est très important que des petites communes comme Saint-Martin-de-Beauvau peuvent disposer toujours d'une école. Sinon, on risque de ne pas avoir des familles avec des jeunes enfants qui veulent s'insérer ici, moins d'élèves plus tard au collège, et ça met en péril, en difficulté, tout le tissu d'enseignement sur notre territoire.
Mais vous-même, vous n'avez plus d'enfants en âge d'être au primaire, en quoi ça vous concerne?
Moi, j'ai maintenant une fille qui est au collège et un fils qui est au lycée. Ça me concerne parce que je me sens attaché au territoire. Je sens bien l'intérêt de tout le monde d'avoir les écoles proches d'eux. Je suis élu aussi. Donc, il faut qu'on attire des familles avec des jeunes enfants pour faire vivre la commune et maintenir la vie locale.
Pour vous, qui êtes d'origine néerlandaise, qui avez choisi de vous installer en Lozère, c'est une démarche citoyenne, finalement.
C'est une démarche citoyenne. Pour moi, n'importe où je vis, je m'investis dans la vie locale et je me sens concerné par les enjeux locaux.
Je te plumerai le cou, je te plumerai le cou.
Pour compléter ce reportage, Yves Decamps a rencontré Michel Baron. Michel Baron est le porte-parole de la Fédération nationale pour l'école rurale. C'est un regroupement d'associations qui se bat contre une gestion purement administrative des établissements scolaires en campagne.
Une des premières questions essentielles des nouveaux arrivants dans un village, c'est est-ce qu'il y a une école ? Donc c'est un des critères essentiels pour l'équilibre des territoires, le repeuplement ou pour éviter une désertification de certaines zones rurales. Il faut quand même savoir que depuis maintenant une quinzaine d'années, globalement en France, le processus d'exode rural est enrayé, voire inversé depuis donc une bonne quinzaine d'années. Alors que justement, le mouvement du nombre d'écoles ne suit pas du tout. La politique de regroupement, bon, d'un point de vue économique, ne nous semble pas tellement justifiée, mais de ce point de vue-là, humain, qui est la vie dans les zones rurales, c'est encore moins justifié, puisqu'effectivement, c'est un pôle humain. On sait très bien qu'autour d'une école, il y a toute une vie. Ce sont des nouveaux parents, des associations, c'est une bonne partie de la vie locale qui se retrouve à la fois freinée, justement, quand il n'y a pas d'école, et au contraire améliorer lorsque l'école existe.
Alors le gouvernement malgré tout en a conscience puisqu'il signe depuis 2-3 ans des conventions départementales, des accords donnant-donnant entre l'État et les collectivités. D'un côté on gèle les suppressions de postes, de l'autre on essaie de s'organiser, de se regrouper. Ce sont des regroupements forcés quelque part.
Oui, alors d'abord, le gel n'est pas toujours total, il est assez souvent partiel. Ce que le gouvernement dit, c'est il y aura moins de fermetures que ce que la démographie aurait entraîné. Bon, ce qui est en partie vrai, mais ce qui est dommage, c'est que bon, ça se fasse au détriment de tas de petites communes qui vont donc perdre leur école. Ça veut dire que bon, ben, des tas d'investissements qui ont été faits auront servi à rien, donc c'est quand même un gâchis. Là, on peut parler aussi d'un gâchis économique, mais au-delà de ça, c'est un gâchis humain, on revient donc à dire que il vaut mieux déplacer les enfants que de maintenir les enseignants sur place. D'autre part, on va parler aussi du pédagogique, parce que plus les structures sont petites, plus les âges sont mélangés dans les classes. Et beaucoup d'études ont montré que, en fait, que lorsque c'est bien géré, lorsque c'est bien préparé, lorsque les enseignants sont formés, ce sont des structures où les enfants réussissent plutôt mieux qu'ailleurs, et où notamment il y a davantage de coopération et moins de compétition. Puisqu'en fait, les enfants sont mis plus en situation de s'aider les uns les autres. Bon, il y a beaucoup d'interactions entre les petits et les plus grands. Contrairement à ce qu'on peut croire, les enfants qui sortent de ces classes-là ne sont pas démunis dans la société parce qu'ils auraient vécu dans des structures trop petites. Ils sont au contraire munis d'une vision du temps beaucoup plus large, beaucoup plus réelle, qui leur permet d'aborder la plupart du temps le collège dans de bonnes conditions. J'ajouterai juste un petit mot. Des études avaient été faites qui montraient que les élèves issus des petites écoles étaient beaucoup plus souvent délégués de classe arrivés dans le collège, parce qu'ils ont eu l'habitude, en devenant les grands de la petite école, à prendre en charge beaucoup de choses, quoi.
Alors non seulement il ne faut pas mettre en danger nos écoles rurales, si je vous entends bien, au contraire, il faut les maintenir, voire les développer. Et vous allez même plus loin, vous souhaitez inclure la ruralité, entre guillemets, au programme de formation des professeurs.
Oui. Nous, ce qu'on demande, c'est l'équivalent d'un module, on l'appelle comme on veut, quelque chose qui rende obligatoire une perception du monde dans lequel on va se retrouver. Il faut quand même savoir que les écoles rurales, c'est un quart des écoles en France, hein. C'est pas anecdotique, ça concerne un quart de la population scolaire maternelle primaire. Donc ça veut dire que dans la formation professionnelle, il serait quand même bon, surtout dans des départements essentiellement ruraux, qu'il y ait un module de sensibilisation à qu'est-ce que c'est qu'enseigner tout seul ou presque dans une école, les rapports avec la mairie, qui sont pas du tout les mêmes que dans des grosses communes, les rapports avec les parents, avec les associations, parce qu'effectivement, si on ne veut pas se retrouver tout seul, il faut ouvrir. D'autre part, quel est le public qu'on va avoir en face de soi? Quelle est la sociologie des petits-enfants qu'on va avoir devant soi? Je veux dire, autant on a travaillé, et à juste titre, les ZEP urbaines, autant les spécificités rurales sont de plus en plus ignorées. Et par conséquent, effectivement, par ignorance, ce sont des zones qu'on cherche à éviter et que les formateurs eux-mêmes ne connaissent plus ou plus suffisamment.
C'était Michel Baron, le porte-parole de la Fédération nationale pour l'école rurale. École à vendre, c'était un reportage d'Yves Decamp, prise de son Yann Fressy, mixage Philippe Bredin et Pierrick Charles. Interception est une émission réalisée par Anne Lureau, avec le concours cette semaine de Zora Bensmaïli et de Stéphane Combe. Et faut-il vous le répéter, le site de notre émission est ouvert à vos remarques, à vos commentaires et au débat. Je vous souhaite un très bon dimanche.